Voici le texte optimisé pour une lecture audio via un moteur TTS. Cours universitaire d'apiculture dispensé par le Dr Kebadar, titulaire d'un doctorat en production animale et gestion de parcours, niveau 3e année, Alain Sattal. Programme de cours, généralité chapitre 1er, anatomie et physiologie de l'abeille chapitre 2, organisation des abeilles, les races d'abeilles, structure de la colonie, le vol des abeilles chapitre 3. Les matières premières chapitre 4. Matériel et équipements apicoles chapitre 5. Les produits de la ruche chapitre 6. Aspects techniques des opérations apicoles chapitre 7. Maladies et nuisances chapitre 8. Économie apicole généralité, aucun être vivant, pas même l'homme, n'a réalisé au centre de sa sphère ce que l'abeille a réalisé dans la sienne. Si une intelligence étrangère à notre globe venait demander à la Terre le plus parfait exemple de la logique de la vie, il faudrait lui présenter l'humble rayon de miel. L'apparition des abeilles sur Terre se situe au Cénozoïque, en liaison avec l'apparition des plantes à fleurs. Depuis cette époque lointaine et pendant les dizaines de millions d'années qui ont suivi, sont apparues puis disparues de très nombreuses espèces d'abeilles, dont les spécialistes nous disent qu'elles n'auront pas beaucoup évolué. Aujourd'hui, à force de croisements de races et d'importations, la différenciation des populations d'abeilles domestiques est menacée. L'abeille domestique, se nourrissant de nectar et de pollen, est un insecte appartenant à l'ordre des hyménoptères, superfamille des Apoidea. Parmi elles se trouve l'espèce Apimellifera, appartenant au genre Api. L'objectif théorique de ce module est de définir et rappeler l'importance de l'apiculture, décrire les différentes parties du corps de l'abeille, identifier chaque élément de la colonie, ses caractéristiques et son rôle, citer les caractéristiques des races d'abeilles étudiées, énumérer les matières premières, citer et caractériser les différents matériels et équipements, citer et caractériser les produits de la ruche, énumérer les opérations apicoles. L'objectif pratique consistera à démontrer sur le terrain les opérations apicoles, comme la fabrication de ruches, le choix du rucher, l'installation des ruches, afin de familiariser toute personne désirant pratiquer ce noble métier. Au départ, l'apiculteur traditionnel, chasseur de miel et de cire, ne s'est intéressé que très peu à l'étude détaillée des abeilles. L'étude anatomique d'Aristote est éloquente. L'abeille est un insecte à six pattes et à quatre ailes sèches et sans étui. Les ailes ne repoussent pas lorsqu'elles sont arrachées. Les grandes phases du comportement de la colonie furent soupçonnées, mais leur interprétation relevait plus de l'imagination que de raisonnement. Le Hollandais Swammerdam fut le premier à mettre en évidence la présence de la reine, mère de la colonie. Réaumur apporte enfin les bases réelles de l'apiculture en anatomie comme en comportement social. En 1961, Linné donne le nom d'Apimellifica à l'abeille. L'apiculture est l'art et la science de l'élevage et des soins à donner aux abeilles afin d'obtenir de leur travail dirigé le miel, la cire, le pollen et la gelée royale, produits de la ruche. Elle nécessite de l'adresse, de l'habileté, de la patience, des connaissances et de l'expérience. La pratique appelle un large éventail de connaissances en biologie, microbiologie et pharmacologie, affections, infections, maladies, soins, chimie et physique, miel, cire, météorologie, travail au rucher, économie, matériel et commercialisation, géographie locale et régionale, enfin législation et coutumes. En réalité, on peut affirmer qu'un tiers de l'alimentation provient directement ou indirectement des insectes pollinisateurs. Les abeilles assurent à elles seules 85% de la pollinisation. Pendant des siècles, les abeilles ont fourni du sucre à l'homme tout en fertilisant les plantes. Sans être un miracle, l'apiculture est un atout appréciable pour l'économie et les constitutions du miel, et en fait un aliment de choix. Chapitre 1er. Anatomie et physiologie des abeilles. Les abeilles appartiennent à la classe des insectes, à l'ordre des hyménoptères, famille des apidées. Les apidées se caractérisent par un duvet de poils sous le corps, une taille de guêpe et un dard venimeux. Le corps de l'abeille est divisé en trois parties, la tête, le thorax et l'abdomen. La tête comprend les yeux. Chez les abeilles, on note la présence de 5 yeux, dont 2 yeux composés, de 3000 à 9000 ommatidies, et 3 yeux simples, les ocelles. Les yeux composés servent à l'orientation par rapport au vol, la vision lointaine, la conception de toutes les couleurs sauf le rouge. Les ocelles servent à la vision rapprochée, dans la ruche, et à la stimulation des yeux composés. Les antennes, au nombre de 2, elles sont constituées de 11 anneaux chez la femelle et 12 chez le mâle. Elles perçoivent l'odorat, l'ouïe, la température, l'humidité. La bouche, on note la présence de mandibules. Le thorax est constitué de 3 segments portant chacun une paire de pattes. Les deuxième et troisième segments portent chacun une paire d'ailes. Les pattes sont constituées d'éléments tubulaires, trochanters, fémurs, tibias. La première partie de patte porte une encoche tarsale dans laquelle l'abeille introduit la base de l'antenne, la fait défiler pour la débarrasser des impuretés qui l'encrassent. La deuxième paire de pattes porte une épine pour décharger la corbeille, et la troisième paire de pattes porte des spécialisations pour la manipulation et le transport des grains de pollen. Les ailes sont constituées de membranes transparentes soutenues par des nervures rigides. Elles volent à une vitesse de 15 à 20 km par heure. L'abdomen, rétréci en avant, s'élargit puis se rétrécit en une pointe appelée aiguillon. Système digestif. Il s'ouvre dans la bouche, se prolonge par l'ésophage, subit un premier élargissement, le jabot, puis un second, le ventricule. À la jonction ventricule-intestin grêle se détache une centaine de tubulures filiformes, les tubes de Malpighi, et se termine par le gros intestin s'ouvrant dans l'anus. Squelette et musculature. Le corps de l'abeille est maintenu dans ses formes grâce à la rigidité des pièces superficielles et nervures rigides sur lesquelles viennent s'attacher les muscles, et font actionner le cœur, les pattes, les ailes. Système respiratoire. Par trachée, l'air pénètre par toute la partie du corps de l'abeille et y ressort à travers les stigmates. Système nerveux. De la tête partent deux cordons qui vont innerver tout le corps. Système circulatoire. Dans toutes les parties du corps de l'abeille circulent l'hémolymphe. Il existe cependant l'aorte dorsale qui, si elle est remplie de sang, baigne également dans l'hémolymphe. La portion abdominale de l'aorte est appelée cœur. Lorsque le cœur se contracte, le sang reflue vers le cœur, celui du thorax vers la tête, celui de la tête reflue vers le cœur et est regroupé par le cœur. Système reproducteur. Mâle. Il est constitué de deux testicules ou gonades, se prolongeant par l'épididyme et les conduits spermatiques, les spermiductes. Les uretères et conduits spermatiques s'unissent en un canal unique, l'urètre. Au repos, le pénis est dans l'abdomen. Lors de l'érection, il sort de l'abdomen. Femelle, on note la présence de deux ovaires produisant des ovules. Il existe deux conduits des ovules, les oviductes, également reliés à l'utérus et au vagin. Il existe une poche sphérique, la spermathèque, pour le stockage des spermatozoïdes lors du vol nuptial. Les organes génitaux femelles sont atrophiés chez les ouvrières. Physiologie de la reproduction. L'abeille, avant de prendre sa forme définitive d'insecte, passe par trois stades. Œuf, larve, nymphe. Auf. Il ressemble à un minuscule bâtonnet de 1,5 mm de long et 0,3 mm de diamètre. Il est déposé au fond de l'alvéole par la reine. Le gros bout de l'œuf présente un orifice à travers lequel passe la semence mâle. Cet orifice est appelé micropyle. Larve. Plus petite que l'œuf, la larve baigne dans une gouttelette de gelée royale déposée par les ouvrières chargées de ce soin. La larve subit plusieurs mues, 5 mues. Nymphe. Les ouvrières recouvrent la larve d'une fine couche de cire, l'opercule. La larve devient une nymphe qui se métamorphose. Il y a différenciation. La larve dirige sa tête vers la surface du rayon, ronge l'opercule et sort. Durée du cycle évolutif chez l'abeille. Caste, reine, ouvrière, mâleux, 3 jours, 3 jours, 3 jours larve, 5 jours et demi, 6 jours, 7 jours nymphe, 7 jours et demi, 12 jours, 14 jours total, 16 jours, 21 jours, 24 jours. Chapitre 2. Organisation des abeilles. Les races d'abeilles. Les biologistes caractérisent une race sur la base de certaines mesures morphométriques. Les veines alaires, la longueur des pièces buccales et des antennes. Et la taille de certaines parties du corps. Les apiculteurs s'attarderont plus sur les caractéristiques comme la couleur, le comportement, la tendance à l'essaimage, la production de miel et la douceur. On compte aujourd'hui quelque 280 000 espèces d'hyménoptères, solitaires ou sociales. Le nom scientifique d'Apimellifera signifie abeille porteuse ou productrice de miel. Le berceau du genre Api est l'Asie. On y trouve encore 8 autres espèces d'Api. Api serrana, Api laboriosa, Api florea, Api dorsata, Api androniformi, Api nigrosyncta, Api nuluensi, Api koshevnikovi. Les études génétiques de l'abeille ont finalement permis de distinguer que le genre Api, originaire d'Asie, ne comporte que 4 espèces toutes sociales. Api dorsata, en Inde, est une abeille géante. Api florea, en Inde, espèce plus petite, est une abeille naine. Api serrana, en Chine, Sibérie, Inde, est une abeille de taille moyenne. Api mellifera vit en colonies qui peuvent aller jusqu'à 100 000 individus. Api mellifera s'est adaptée aux zones tropicales, subarctique et aux zones tempérées, en Europe, Afrique, Asie occidentale, Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande. C'est une abeille de taille moyenne. L'abdomen est brun foncé avec quelques taches jaunes. Elles ont un caractère nerveux et agressif, mais hivernent bien sous les climats rigoureux. Cette espèce est divisée en plusieurs races géographiques, sous-espèces, dont les plus connues sont Apimellifera mellifera, de couleur noire. Elle est originaire de l'Europe du Nord et du centre-ouest de la Russie. Elle est désignée sous le nom abeille noire. Elle fournit des abeilles douces, faciles à manipuler. Leur rayonnage est très régulier. Apimellifera ligustica. Elle est originaire d'Italie mais a été exportée dans le monde entier. Elle est un peu plus petite que la mellifera. De couleur jaune, très prolifique, peu sociable. Elle a tendance à essaimer si elle est mal surveillée. Apimellifera carnica. Aussi appelée abeille carniolienne, elles sont originaires du sud de l'Autriche, du nord des Balkans et de la vallée du Danube. Elles sont à peu près de même taille que la ligustica. Elles ont également la tendance à l'essaimage et construisent lentement les rayons. Apimellifera caucasica, ou abeille caucasienne, originaire de Russie. La longueur de sa trompe lui permet d'exploiter toutes les fleurs. Elle est très productive, de caractère docile. Elle propolise beaucoup et est peu essaimeuse. Elle est sensible à la nosémose. Apimellifera secropia. Elle est originaire de Macédoine. Apimellifera intermissa. Elle se trouve au nord du Sahara et de la Libye au Maroc, en Afrique du Nord. Cette petite abeille noire est agressive et essaime énormément. Apimellifera lamarcki, aussi appelée fasciata, on la retrouve en Égypte, au Soudan et dans la vallée du Nil. On retient sa capacité à constituer un énorme élevage royal, plus de 360 cellules royales par saison. Apimellifera scutellata, elle est d'origine de l'Est africain. Apimellifera adansoni, en Afrique occidentale, agressive, elle reste assez mal connue. Bonne productrice de miel, tendance à l'essaimage. Son abdomen est jaune. Structure de la colonie d'abeilles. Les abeilles vivent en famille communément appelée colonie. Les individus qui composent la colonie sont la reine, les ouvrières et les faux bourdons. Aucun de ces éléments ne peut vivre séparément en raison du haut niveau de spécialisation atteint par chaque catégorie. La reine. Dans une colonie de 40 000 à 50 000 insectes ou même plus, en pleine saison, il y a une seule reine, ou mère, c'est-à-dire la seule femelle féconde. Elle a un abdomen plus allongé et des ailes courtes. Son rôle consiste à pondre. Sa durée de vie varie de 4 à 5 ans. Après avoir effectué le vol nuptial, elle fera une semaine d'incubation et pondra indifféremment deux types d'œufs. Les œufs fécondés, ovules plus spermatozoïdes, qui donneront naissance aux reines et ouvrières. Les œufs non fécondés, ovules seulement, qui donneront naissance aux mâles. Dès sa naissance, elle cherche à exterminer les autres reines élevées sur le même couvain. Pour assurer la cohésion de la ruche, la reine sécrète des substances odorantes qui agissent sur le comportement des abeilles. Ces substances sont appelées phéromones. Les phéromones royales 1 et les phéromones royales 2. Le premier est sexuel et le second tranquillise. Les ouvrières, ce sont des femelles imparfaites. Elles ont un appareil génital atrophié et un corps petit et velu, avec une trompe buccale assez développée, de 5,5 à 7,1 mm, et ayant des organes spéciaux sur les pattes pour la récolte des pollens, corbeille et brosse sur la troisième paire de pattes, un dard venimeux. Les abeilles ouvrières disposent d'un corps spécialement adapté à la récolte. Les mandibules leur permettent de récupérer le pollen sur les anthères, de décoller les fragments de propolis sur les bourgeons. Les maxilles, les palpes labiaux et leur langue poilue en forme de cuillère servent à prélever le nectar par des mouvements de pompage. La face externe de leur tibia est creusée d'une corbeille dans laquelle s'amasse le pollen sous forme de pelote. La patte est aussi dotée de petits organes en forme de râteau, de brosse et de peigne. C'est la classe la plus nombreuse, de 10 à 80 000 dans la ruche, mais aussi des multitudes de tâches qu'elles assurent pour faire vivre la colonie. L'ouvrière est tour à tour nettoyeuse, nourrice, cirière, butineuse de nectar et pollen, gardienne, récolteuse d'eau et propolis. Les aliments s'accumulent d'abord dans le jabot, fine poche extensible qui sert à stocker, puis à régurgiter dans la ruche, le nectar et l'eau butinée, sans que ceux-ci soient en contact avec les intestins, ainsi que le miel et le pollen qui seront transférés aux abeilles receveuses par trophallaxie, transfert de nourriture de l'abeille butineuse à l'abeille manutentionnaire. Les faux bourdons, mâles moins nombreux, issus de la parthénogenèse. Ils ont pour activité de ventiler la reine quand il fait chaud dans la ruche et de s'accoupler pendant le vol nuptial. Ils sont dépourvus de dard. Ils vivent 56 jours. ils ne peuvent ni piquer ni récolter de nectar ou de pollen. Une forte colonie peut avoir jusqu'à 300 mâles. Les tâches des ouvrières sont les suivantes. Nettoyeuse, dès sa naissance jusqu'à 3 jours. Nourrice, âgée de 4 à 8 jours, elle nourrit les jeunes larves de 3 jours avec de la gelée royale et la reine. Cirière, âgée de 8 à 15 jours, elle assure la sécrétion de cire pour construire les alvéoles. C'est à cet âge qu'elle effectue son premier vol d'orientation. Ventileuse, âgée de 15 à 18 jours, assurant la thermorégulation interne de la ruche. Gardienne, âgée de 18 à 20 jours, rôle de contrôler les butineuses, alerter la colonie en cas de danger. Butineuse, âgée de plus de 20 jours. Pendant l'essaimage, une proportion de 7 à 10% des abeilles ouvrières butineuses joue le rôle d'éclaireuse. L'essaimage est la division naturelle d'une colonie. On distingue l'essaimage naturel et artificiel. L'essaimage a trois causes. Accidentelle, due à un surchauffement de la ruche, départ total de la colonie. Physiologique, la prolificité entraîne la colonie à la division, c'est l'essaimage naturel. Psychique, l'instinct de liberté d'une jeune reine non fécondée. Le pillage, lorsque la nourriture se fait rare, une colonie forte attaque la plus faible pour s'approprier leurs provisions ou réserves de miel. Le vol et communication des abeilles. Le vol. Pendant le vol, les ailes antérieures de l'abeille sont rattachées aux ailes postérieures. Au repos, les deux paires d'ailes se désolidarisent. Ce système possède le grand avantage de réduire les phénomènes de turbulence ainsi que la traînée inhérente au vol. L'aéronautique s'en est largement inspirée et n'a jamais trouvé mieux. 20 à 30 km par heure, c'est la vitesse de vol moyenne d'une abeille. Grâce aux puissants muscles de son thorax qui se contractent plusieurs fois pour un seul influx nerveux, l'abeille effectue 400 battements d'ailes par seconde. Pour butiner, elle parcourt généralement une distance moyenne de 1500 mètres de rayon, mais peut parfois parcourir plus de 3000 mètres, voire beaucoup plus, transportant des pelotes de pollen presque aussi lourdes qu'elle. Sa consommation énergétique en glucose est de 1,5 mg par minute. La communication, les danses de l'abeille, plus que la vue, c'est le son qui intervient dans le système de communication de la danse. Lorsqu'une butineuse découvre une source de nectar, elle retourne à la ruche et dégorge une goutte de nectar. D'autres butineuses prennent connaissance de la découverte et du parfum du nectar de fleurs, qu'elles reconnaîtront ainsi facilement. Commence alors la danse. Faisant vibrer ses ailes, l'abeille exécute une sorte de danse en rond. Elle décrit un cercle, repart à son point de départ, fait demi-tour et reprend le même mouvement en sens inverse. Si le butin se trouve à 100 mètres, l'éclaireuse exécute une danse plus compliquée destinée à indiquer la direction et la distance du lieu à découvrir. C'est la danse frétillante. L'axe d'inclinaison par rapport au soleil indique la direction. La vitesse de la course indique la distance à parcourir. La danse circulaire indique une source de nectar dans un rayon de 100 mètres. Le langage sonore plus que la vue, c'est le son qui intervient dans le système de communication de la danse. Mais la danse n'a pas le privilège de la communication sonore. Le chant des reines, bien connu des apiculteurs, est l'un des plus beaux sons vibratoires émis. Les ouvrières aussi s'expriment par des cris flûtés, bien qu'on ne sache pas encore ce qu'elles disent. Une expérience réalisée en Australie prouve que les abeilles règlent une grande partie de leurs activités par voie acoustique. La diffusion de cris d'alarme et de crépitements enregistrés dans une ruche provoque chez les abeilles les mêmes cris d'alarme et crépitements. L'expression sonore des abeilles est donc bien plus riche qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Le langage des odeurs, la cohésion de la ruche repose sur l'émission et la réception de messages. Le mode de communication le plus répandu chez les insectes est chimique et utilise des odeurs particulières, les phéromones. Ce sont des substances qui, émises par l'abeille et perçues par une autre, provoquent chez cette dernière un changement de comportement, phéromones indicatrices, ou de physiologie, phéromones. Modificatrices. Certaines des phéromones produites par la reine suinte sur son corps et sont recueillies par les ouvrières qui les disséminent dans toute la ruche. Deux de leurs multiples effets sont de déclencher, chez les ouvrières, l'inhibition du développement des ovaires, chez les mâles, une attirance irrésistible au pouvoir aphrodisiaque. D'autres composés chimiques sont utilisés par les abeilles comme signal d'alarme ou guide de la colonie. Une toute nouvelle phéromone vient d'être découverte chez les butineuses. Elle agit comme un inhibiteur chimique retardant l'âge du butinage chez les plus jeunes. Le couvain, lui aussi, produit des substances qui intensifient la récolte de pollen et donnent aux ouvrières des informations sur son âge et ses besoins. Les insectes voisins des abeilles sont les mélipones. Elles sont généralement noires et fabriquent leur miel sous terre. Elles sont noires, grosses comme des mouches. Les trigones. Ce sont des insectes de petite taille produisant un miel, faux miel, en petite quantité dans les arbres. Les ennemis des abeilles sont les vertébrés nuisibles, les reptiles comme le lézard, les oiseaux comme les guêpes chassées d'Afrique qui sont des insectivores font des ravages parmi les abeilles. Les mammifères tels que les rats, les souris et les hérissons sont à craindre également. Les insectes nuisibles. La fausse teigne sécrète un ferment spécial, un lipide capable de digérer la cire. Les fourmis. Les fourmis sont en général dangereuses pour les abeilles. C'est pourquoi l'apiculteur averti doit prendre des dispositions lors de l'établissement de son rucher. Il faut élever les ruches sur des supports hauts d'au moins 50 cm, détruire les mauvaises herbes autour de la ruche, détruire les galeries et fourmilières dans le voisinage immédiat des ruches, mettre dans les fourmilières du pétrole. Les araignées. Plusieurs variétés d'araignées sont nuisibles aux abeilles. Chapitre 3. Les matières premières, on ne peut parler des abeilles sans penser en même temps aux fleurs des plantes. Les premiers tirent leur nourriture des secondes, qui les attirent par leur couleur et profitent de cette attraction pour assurer leur reproduction. Les matières premières sont l'eau. Les abeilles ne recherchent pas particulièrement les eaux pures. Au contraire, les flaques boueuses, les eaux marécageuses leur apportent des matières azotées. Les besoins en eau d'une colonie s'élèvent à 15 à 20 litres par an. Le nectar, sécrété par les nectaires des pétioles ou des bractées, c'est un liquide sucré attirant les insectes et constituant la matière première de la majorité des miels. Les butineuses vont de fleur en fleur, aspirent les nectaires. Cette production varie avec la nutrition de la plante au cours de l'année précédente, les conditions climatiques, le moment de la journée, l'espèce visitée, la situation géographique, le nombre de visites par abeille. Le pollen. C'est l'élément mâle des fleurs et se présente en grains microscopiques dans les anthères des étamines. La récolte se fait avec peigne, brosse, corbeille, épine des pattes postérieures. Quand la charge est suffisante, 10 mg, les butineuses reviennent à la ruche. Le pollen va subir une transformation lactique qui lui enlève sa faculté de germer et développe ses propriétés antibiotiques. Dans la ruche, le pollen rentre aussi dans la fabrication de bâtisses et opercules. La pénurie de pollen provoque des troubles chez les ouvrières. La propolis, c'est une sorte de gomme résine et balsamique récoltée par les abeilles sur les bourgeons de certains arbres. Les abeilles peuvent modifier la composition de cette substance de consistance visqueuse en les mélangeant à certaines de leurs sécrétions et de la cire. L'abeille enduit l'intérieur de son habitat de cette résine pour se protéger des agressions microbiennes. De plus en plus, les scientifiques pensent que la propolis possède des propriétés profilactiques importantes. Le miela, liquide sucré butiné par les abeilles sur les feuilles d'arbres ou d'arbustes. C'est une excrétion de pucerons ou d'autres parasites des végétaux qui sucent la sève. Le miela, qui est constitué d'eau et de sucre, est rejeté par l'anus en gouttes sirupeuses. La miellée. La miellée est émise directement par les feuilles à travers les orifices stomatiques. Les miellées végétales renferment souvent du saccharose remplacé par de la mannitose dans certains végétaux, de la mélésitose chez d'autres, du glucose, de la dextrine et des gommes. Liste de quelques espèces de plantes mellifères, nom scientifique, nom français, période de floraison Vitellaria paradoxa, Carité, mars à avril Parkia biglobosa, Néré, février Caia sungalensi, Caille cedra, mars Colla cordifolia, Faucolatier, novembre à décembre Lanea acida, raisin sauvage, avril Amelanea microcarpa, raisin sauvage, mais à juin Tamarindu indica, tamarinier, avril Amecassia siamea, cassia, mars à avril Azadirachta indica, Nîmes, mars à avril Melina arborea, Melina, mars à avril Balanita egyptiaca, dattier du désert, mars Bombax costatum, capoquier, octobre à novembre note. Toutes les plantes rencontrées au Sahel sont mellifères. Trois sont toxiques et ne sont pas visitées par les abeilles. L'aubergine ordinaire, Erythrophleum guineense, Gardenia tonifolia. Période de production de miel, la grande miellée, floraison de plantes pérennes. La petite miellée, floraison de plantes annuelles. Chapitre 4. Matériel et équipements apicoles. La pratique de l'apiculture nécessite l'obtention de matériel et équipements d'apiculture. Depuis toujours, les populations africaines ont recueilli le miel en allant le chercher directement dans le nid des abeilles sauvages établies dans les arbres de la forêt. Ces chasseurs de miel recueillent ce miel sauvage mais détruisent les colonies. Un intérêt croissant s'est manifesté ces dernières années pour le potentiel qu'offre l'apiculture en tant qu'outil de développement. Mais le véritable élevage des abeilles, l'apiculture proprement dite, implique la manipulation et la gestion d'une colonie d'abeilles pour obtenir le maximum de miel. Elle exige non seulement un matériel plus perfectionné, mais surtout une certaine compréhension du comportement des abeilles. La ruche. La ruche est un récipient de forme et de taille très variable dans lequel l'homme élève les abeilles. Les ruches modernes les plus utilisées en Afrique sont les ruches à rayons mobiles, par opposition aux ruches traditionnelles appelées ruches à rayons fixes. Il y a de nombreux modèles, mais le modèle le plus utilisé en Afrique est la ruche kényane ou à barrettes, conçue au Kenya vers 1970, appelée TBH en français, ruche qui a des barrettes au sommet. On peut également utiliser la ruche d'Adam. L'enfumoir, c'est la pièce maîtresse en apiculture. C'est l'accessoire le plus important pour la visite de la ruche. Il est composé de deux parties, le soufflet et le foyer. Le lève-cadre, c'est un système de levier qu'on utilise pour décoller les cadres collés à la propolis. On peut utiliser un simple couteau comme lève-cadre. Les gants et les bottes. Les gants ordinaires en caoutchouc ou tissu épais sont conseillés pour les opérations apicoles. Mais il faudra ajouter les manchettes. Ils protègent les mains et les pieds. La brosse. Elle sert à brosser les abeilles sur les rayons. La bahía o raur de la brusa. La vareuse ou combinaison. C'est le vêtement de protection de l'apiculteur, qui comprend le masque, le pantalon et la chemise. Elle permet d'éviter les piqûres des abeilles et la mort des abeilles. L'extracteur. Il permet de broyer les gâteaux de miel à l'aide d'une force centrifuge. Il comprend une manivelle et un système de panier. On obtient une crème de miel. La bascule. Matériel utilisé pour peser le miel et la cire. La presse à miel. Elle permet d'extraire le miel obtenu dans les résidus de cire. Le maturateur. Il comprend un système de tamis qui permet le filtrage du miel crème obtenu de l'extracteur. La cuve récupère le miel filtré qui est prêt pour la mise en pot. Cette opération permet de mûrir le miel. La chaudière à cire. Elle sert à extraire la cire pure de la cire brute. Le rucher. C'est un terme de zootechnie désignant l'emplacement dans lequel on installe les ruches. La ruchée. Terme littéraire qui signifie ce qui existe dans la ruche, population de la ruche. Chapitre 5. Les produits de la ruche. Le miel est une denrée produite par les abeilles mellifiques à partir du nectar des fleurs ou des sécrétions provenant des parties vivantes des plantes ou se trouvant sur elles, qu'elles transforment, combinent avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. Il peut être fluide, épais ou cristallisé. Il est composé de 16 à 18% d'eau, de 75 à 80% de sucre. Le reste est composé de substances appartenant aux familles chimiques, acides organiques, sels minéraux, protéines, acides aminés libres, matières volatiles odorantes, vitamines. Ce qui fait du miel un produit particulièrement intéressant du point de vue nutritionnel. Il est utilisé dans la fabrication de bonbons, boissons rafraîchissantes, pâtisseries, confitures. Le miel guérit ou soulage les troubles digestifs, traite les troubles cardiovasculaires. Il lutte contre l'intoxication, est utilisé contre la xérophthalmie et les affections cutanées. Le rayon, gâteau de cire dont les alvéoles sont remplis de miel ou de couvain. Le couvain operculé, l'abeille est un insecte à métamorphose complète, ce qui signifie qu'elle connaît quatre stades distincts de son cycle de vie. L'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Les trois premiers se développent à l'intérieur des alvéoles dont les rayons reçoivent le nom de couvain. Les œufs et les larves sont logés dans des alvéoles non fermées et soignées par les adultes. Ces deux stades s'appellent le couvain ouvert ou non operculé. Après l'éclosion des œufs, les ouvrières nourrissent continuellement la larve qui se développe. Quand la larve s'approche de la fin de sa période larvaire, elle engloutit la nourriture apportée par les ouvrières, et celle-ci scelle les alvéoles. C'est le couvain operculé. Le pollen, comme produit de la ruche, est privé de son pouvoir germinatif, mais ses propriétés antibiotiques s'améliorent. C'est une substance indispensable à la vie de la ruche et en particulier à l'alimentation des larves. Toute famille privée de pollen est généralement jaune, mais il peut présenter souvent les espèces de grande diversité de coloration. La propolis. En tant que produit de la ruche, elle est constituée de 50% de substances résineuses, 10% d'huiles essentielles et 40% de cire. La propolis est une substance visqueuse dans laquelle les abeilles embaument leurs cadavres. Elle est utilisée dans le traitement des verrues, des éruptions cutanées, des plaies, des lombalgies et dorsalgies. La cire, communément appelée bâtisse, rayon, gâteau, est produite par les glandes cirières des abeilles ouvrières âgées de 12 à 18 jours. Elle est constituée d'acides gras et d'alcool. La cire apparaît sur la partie inférieure de leur abdomen. Elle est utilisée en chirurgie, comme antiseptique, en informatique, en électronique, dans la conception des pommades, des parfums, des savons, des bougies. la gelée royale, produite par les abeilles ouvrières âgées de 3 à 8 jours grâce à des glandes hypopharyngiennes. Elle contient de l'eau, du miel et du pollen. La composition de la gelée royale est telle que seules les larves qui reçoivent en abondance peuvent évoluer en reines. Longévité, lutte contre l'émotivité à la dose d'un gramme. Le venin, c'est le produit de la ruche le plus connu. Il contient des minéraux, de l'eau, des enzymes. Le venin est introduit sous la peau grâce au dard ou aiguillon et provoque deux réactions. La toxicité locale et la toxicité générale. Le venin d'abeille traite le rhumatisme articulaire grâce à une enzyme appelée lécithinase. Il a des propriétés antiguatrigènes à cause de sa richesse en iode. En cas de piqûre d'abeille, on utilise les antihistaminiques, le fénergan, la polaramine, l'eau sucrée et des corticoïdes. Composition des produits de la ruche miel, par exemple miel d'aloe vera. 75 à 79% de glucides, 1% de protides. Vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9. Oligoéléments, calcium, chlore, cuivre, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, silicium, sodium, soufre. Enzymes, invertase, amylase, pollen, acids aminés, glutamine, arginine, cysteine, histamine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine. Vitamines, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, D, E, provitamine a gelée royale, acides amines, alanine, arginine, asparagine, glutamine, cisteine, glicine, leucine, isoleucine, lisine, fenilalanine, treonine, valine, serine, tirosine. Vitamine, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, A, C, D, E. Éléments minéraux, potassium, phosphore, fer, calcium, cuivre, silicium. 66% d'eau, 12% de protides. Propolis, vitamine, B1, B2, B6, C, E. Éléments minéraux, argent, mercure, césium, antimoine, cuivre, manganèse, fer, calcium, aluminium, vanadium, silicium. Steroids, derives cafix. Chapitre 6. Aspect technique des opérations apicoles. Installation d'un rucher. Une bonne production de miel commence par un choix judicieux de l'emplacement du rucher et sa bonne installation. Choix de l'emplacement. L'emplacement du rucher doit être une région qui, dans un rayon d'un kilomètre, donne accès à une ou plusieurs sources de matières premières. Bien que les abeilles se déplacent à l'intérieur d'une zone d'un rayon d'environ 3 km, il est préférable d'installer la ruche au milieu des plantes mellifères. Moins les abeilles auront à voler, moins sera l'énergie qu'elles dépensent. La production mellifère s'améliore. La présence d'une source d'eau est également importante. Les besoins en eau d'une colonie d'abeilles atteignent 15 à 20 litres par an. Quelques critères de choix d'un site de rucher, l'existence de sources de nectar et pollen. Accès facile pour l'apiculteur. Non-inondation de l'emplacement pendant la saison pluvieuse. Salubrité et exposition correcte. Si l'on travaille avec les races d'abeilles agressives, en Afrique et en Amérique du Sud, l'emplacement du rucher ne doit pas avoisiner des régions habitées ou bien des régions occupées régulièrement par du bétail ou réservées à l'agriculture. En principe, les distances suivantes sont considérées comme sûres. Plus de 100 mètres si un bois se trouve entre les ruches et les zones fréquentées. 200 mètres s'il s'agit de brousse. 300 mètres pour une région découverte. Le rucher ne doit pas être trop éloigné de l'habitat de l'apiculteur, et un sentier praticable relié de manière à ne pas rendre les contrôles réguliers trop fatigants et trop coûteux. L'apiculteur doit être vigilant quant à l'utilisation de pesticides puissants dans les environs. Pose de la ruche. La pose de la ruche est l'opération consistant à installer une ruche vide, préalablement amorcée, dans le but d'attirer une colonie. Il existe plusieurs possibilités de pose des ruches améliorées. Elles peuvent être placées sur des arbres. Les ruches sont munies d'attaches qui permettent de les fixer sur les branches. Suspendues à hauteur d'homme entre deux arbres ou deux piquets. Au moment de la pose, l'apiculteur doit prendre un certain nombre de précautions ou de dispositions. Les ruches doivent être protégées du réchauffement intense, du soleil. Elles sont placées dans ou sous des arbres qui procurent de l'ombrage. Ou alors on installe un petit toit au-dessus de chaque ruche. Elles doivent être protégées du vent. Les ruches seront placées de façon à ce que le trou de vol ne se trouve pas dans la direction du vent dominant. L'orientation retenue est le sens nord-sud, ce qui favorise une production optimale par rapport au site. D'une manière générale, les ruches doivent être protégées contre les prédateurs, bétail, crapauds, fourmis, termites, écureuils, par installation ou enduire les supports de graisse ou d'huile de vidange. Amorçage, c'est une opération qui consiste à enduire les baguettes les unes après les autres à l'aide d'une cire préalablement chauffée, température de fusion 62,5 degrés Celsius. L'odeur de la cire attire les sèmes vers la ruche. Les apiculteurs traditionnels utilisent d'autres substances telles que la bouse de vache, les fruits secs. L'apiculteur peut, dans certains cas, faire d'autres opérations au cours de l'évolution d'un rucher. Ces opérations ou manipulations apicoles sont parties intégrantes des aspects techniques. Transvasement, c'est le passage d'une ruche à une autre. Dans l'opération de transvasement, on peut faire passer les abeilles d'une ruche traditionnelle à une ruche améliorée, d'une caisse à une ruche améliorée, d'une roche à une ruche améliorée, du creux d'un arbre à une ruche améliorée, d'un plafond à une ruche améliorée. Le transvasement peut faire suite aux attaques de termites, fond de la ruche endommagée. Il est utilisé lorsque les ruches posées par l'apiculteur ne se peuplent pas toutes seules. Dans toutes les opérations de transvasement, il faut toujours bien s'assurer que la reine a été déposée dans la ruche d'accueil. Si ce n'était pas le cas, les abeilles n'y resteront pas. Le succès du transvasement s'observe après quelques jours en constatant que les abeilles sont toujours là et qu'elles ont commencé à construire des rayons. Transfert, c'est le déplacement du nid des ruches peuplées d'un rucher vers un autre. Cette opération se déroule comme suit. Boucher les deux trous, vol et aération. Enrouler la ruche dans un drap. Transporter la ruche enroulée de l'ancien rucher au nouveau. Dérouler la ruche et procéder à la pose. Libérer les trous. La cause de transfert est généralement liée au cas de feu de brousse, de vol ou d'attaque de termites ou d'autres prédateurs. Piégeage des essaims. Les ruches sont posées sur les arbres, les supports ou suspendus pour les mettre à l'abri des divers prédateurs et du feu qui dévaste la forêt et la savane en saison sèche. Ensuite, parce que les essaims migrants ne volent pas à ras de terre, les ruches de piégeage doivent être disposées à 1 ou 2 mètres du sol. Chasse aux abeilles, c'est une opération qui consiste à écarter les abeilles, les chasser, lorsque la vie de l'homme est menacée par leurs piqûres ou lorsqu'elles dérangent, parfois même lorsque le risque est présent. Suivi technique au niveau des ruches. Contrôle périodique des ruches après son installation, la ruche doit être régulièrement suivie. Le suivi se fera depuis la pose de la ruche jusqu'à la récolte. Il a pour but de se rendre compte de l'évolution générale de la ruche, le peuplement, le comportement des abeilles, leur production, l'état sanitaire de la colonie, l'état du couvain, etc. Le suivi permet aussi d'assurer une performance effective et efficace dans la production, en fournissant toutes les informations utiles qui permettront à l'apiculteur d'améliorer sa façon d'intervenir et de faire face aux besoins, ce qu'il faut pour remédier aux insuffisances et aux contraintes qui se présenteront au cours de l'exécution de ses activités. Dans tout suivi, l'observation des facteurs internes et externes s'impose. Observation autour de la ruche avant d'ouvrir la ruche. Le coup d'œil de l'apiculteur est nécessaire, déterminant et très révélateur. L'observation quotidienne de l'activité des abeilles au trou de vol est l'un des meilleurs indices de la bonne marche d'une ruche. Elle permet de vérifier si l'activité des abeilles semble normale, butineuse, présence d'éventuels parasites ou ennemis, des abeilles mortes sur le plancher de vol, signe d'attaque de maladie. Le suivi périodique tiendra compte de certains facteurs tels que les conditions météorologiques, le moment de la journée, de préférence tôt le matin ou tard le soir. Il est déconseillé d'ouvrir les ruches les jours nuageux ou pluvieux. L'observation autour de la ruche nous permet également de nous rendre compte du degré d'entretien des ruches, présence de hautes herbes sèches à l'intérieur des vergers, ce qui aggraverait considérablement les dégâts en cas de feu et l'évolution des ennemis des abeilles. Emplacement des ruches, supports maladaptes. Détérioration des plantes mellifères. Ruches exposées aux intempéries, soleil, vent, pluie, etc. Certaines ruches manquent de couvercle, tombées ou emportées par le vent. Chapitre 7. Maladies et nuisances. Les maladies et nuisances pouvant toucher la colonie sont cependant bien plus nombreuses. Mais il faut reconnaître que, pendant des millénaires, les abeilles ont assez bien réussi à se protéger contre ces attaques. Face à ces attaques, l'apiculteur doit garder en tête les vérités suivantes. ce sont les apiculteurs qui propagent les maladies et nuisances de pays à pays en important des rennes et des colonies nucléaires de toutes les régions du monde. Ce sont les apiculteurs qui propagent les maladies et nuisances de rucher en rucher avec leurs projets d'élevage et échange de colonies. Ce sont les apiculteurs qui propagent les maladies et nuisances de colonie en colonie en déplaçant les rayons d'une colonie à une autre. Ce sont les apiculteurs qui, de par leur gestion, peuvent influencer les conditions sanitaires dans lesquelles évoluent leurs abeilles. Les colonies fortes sont moins sujettes aux maladies, et quand elles le sont, elles s'en sortent généralement sans aide extérieure. La présence de paquets d'abeilles mortes ou mourantes devant la ruche n'est pas forcément un signe de maladie. Cela peut aussi signifier un empoisonnement par les pesticides. Prenez alors contact avec les cultivateurs et empêchez les abeilles de voler lorsque les cultivateurs traitent aux pesticides. Mettez dans ce cas un écran de ventilation devant la ruche et donnez de l'eau aux abeilles. L'affaiblissement ou l'amoindrissement d'une colonie n'est pas nécessairement dû à une maladie. Il se peut que les régulateurs de croissance des plantes ou les herbicides tuent les végétaux que les abeilles butinent. Prenez alors contact avec les autorités locales et les cultivateurs et essayez de les convaincre de ne pas utiliser ces agents. Sinon, déplacez les abeilles dans une autre zone. La varroase, on diagnostique une varroase quand un grand nombre d'abeilles déformées tombent devant la ruche. La déformation est due à des virus déposés dans le nid du couvain par des parasites, les varroa jacobsoni comme on les appelait autrefois, ou les varroa destructeurs comme on les appelle de nos jours. Le parasite femelle varroa est brun et de forme ovale. C'est un parasite des abeilles adultes et du couvain. Il se régénère dans les cellules de couvain closes de l'abeille mellifère et se nourrit de larves avant de pouvoir pondre des œufs au rythme d'un toutes les 25 à 30 heures. Le premier œuf devient normalement un mâle et les derniers des femelles. Les parasites aiment s'installer dans les jeunes abeilles occupées aux travaux intérieurs de la ruche plutôt que dans les abeilles voleuses. Au moins deux fois plus de parasites peuvent se développer dans du couvain mâle que dans du couvain femelle, car le couvain mâle met 3 jours de plus pour se développer. Il est donc important de ne pas avoir trop de parasites. Dans la colonie, tous les parasites ne peuvent pas se reproduire. Cela dépend des facteurs suivants. Les espèces d'abeilles. Une espèce est moins vulnérable lorsque son couvain se développe vite et lorsqu'elle se toilette bien. Les saisons. La disponibilité des cellules de couvain adéquates et la taille de la colonie influencent la capacité de reproduction du parasite. L'environnement. Une température plus élevée que celle qui convient empêche les parasites de se reproduire. Les abeilles ouvrières infectées par les parasites sont moins à même de nourrir le couvain. Leurs conditions physiques se détériorent rapidement. Elles vivent moins longtemps, vont butiner plus tôt, font moins de vols par jour, rapportent moins de pollen ou de nectar par vol et reviennent moins souvent à la ruche après le premier vol. Traitement chimique, on peut traiter le varroa au moyen de produits chimiques synthétiques à effet biocide. Il s'agit des produits amitraze, apistan, apitol, bévarol, folbex VA, périsin, malathion, ou avec des acides naturels, acide formique, acide lactique, acide oxalique, huiles éthérées et camphre naturelle ou des mélanges. L'utilisation répétée sur plusieurs années des composés chimiques synthétiques peut entraîner le développement de résistance chez le parasite. Cela laisse également des résidus nocifs dans la cire et le miel. Les composés d'amitraze et périsin laissent des résidus cancérigènes dans les produits apicoles. En Europe, leur utilisation est interdite depuis longtemps. Il est donc fortement déconseillé d'utiliser les composés chimiques synthétiques. Traitement biotechnique, les parasites s'incrustant plus facilement dans le couvain mâle, il est logique d'aller les chercher dans le couvain. Au printemps, quand les colonies commencent à construire, on leur fournit un cadre au centre du nid à couvain pour construire les cellules de couvain mâle que l'on retire dès que la plupart des cellules de couvain mâle sont operculées. Les cellules sont désoperculées, les larves extraites et le rayon lavé, séchées et redonnées aux abeilles pour recommencer la ponte. Avantage de cette méthode, on capture les parasites. On coupe court aux infestations. La population parasite ne s'accroît pas. Les abeilles construisent un moindre nombre de cellules de couvain mâle dans d'autres rayons. Le couvain mâle dans les autres rayons doit être découpé et enlevé là où c'est possible. Si un essaim sans couvain reçoit un rayon avec du couvain mâle ouvert, tous les parasites sont attrapés et cette colonie sera libérée des parasites pour un moment. Les acides formiques, oxaliques et lactiques sont des substances naturelles que l'on trouve normalement dans la ruche. Correctement appliqués, ces acides tuent les parasites sans nuire aux abeilles. Les parasites ne développent pas de résistance aux acides naturels. Les vapeurs d'acide formique peuvent tuer les parasites à l'intérieur des cellules de couvain operculées. Aussi est-il judicieux d'appliquer ce traitement au mois d'août, à l'époque de la formation des abeilles hivernales vivant longtemps. Placez un vaporisateur dans un rayon à côté du nid à couvain. Vaporisez 15 à 20 ml d'acide formique à 60% dans chaque chambre à couvain pendant au moins 10 jours et répétez le traitement une semaine plus tard. À défaut de vaporisateur, vous pouvez utiliser un linge en éponge de 0,5 par 20 par 20 cm. Cette méthode est moins efficace et doit donc être répétée 3 ou 4 fois. Il ne faut pas utiliser l'acide formique quand les températures dépassent 25 degrés Celsius dans la journée et descendent en dessous de 5 degrés la nuit. Si on utilise un linge en éponge, la température nocturne ne doit pas descendre en dessous de 12 degrés Celsius. Les acides oxaliques et lactiques ne sont efficaces que si la colonie est dépourvue de couvain. Les solutions doivent dans ce cas être vaporisées directement sur les abeilles à raison de 3 ml d'acide oxalique et de 5 ml d'acide lactique pour chaque phase du rayon. Il est alors préférable que les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 5 degrés Celsius pendant le traitement. L'acide oxalique peut également être appliqué sous forme de vapeur et de solution à dissoudre dans du sirop de sucre. Les acides organiques pouvant endommager la peau, les yeux et les poumons des êtres humains, il est recommandé de porter des vêtements de protection pendant le traitement et de ne pas inhaler de vapeur. Il est possible de combattre le parasite du varroa sans traiter avec des produits chimiques si on utilise des rayons mâles contenant du couvain ou des œufs désoperculés et si on les donne aux colonies lorsqu'elles commencent à ne plus avoir de couvain pendant la saison de l'essaimage. La fausse teigne, la deuxième plus grande nuisance après le parasite varroa, est la fausse teigne. On en connaît différentes espèces, mais la plus connue est la grande fausse teigne, Galeria melonella. Les larves de ce parasite se nourrissent des rayons non protégés, des peaux de larves dans les cellules, de pollen et de miel. La fausse teigne aimant les climats chauds, les rayons non protégés, en particulier dans les régions subtropicales, sont particulièrement exposés à cette plaie. Pendant les périodes de disette, les populations d'abeilles en déclin laissent les rayons sans protection et les larves de fausse teigne en profitent pour les détruire en quelques semaines. Les colonies faibles partent alors pour fuir les populations toujours plus nombreuses de larves de fausse teigne qui les perturbent et les agressent constamment. Dans les climats chauds, il convient de stocker les rayons vides au-dessus des colonies fortes ou, si c'est possible, dans des endroits continuellement ventilés. Si ce n'est pas possible, mieux vaut faire fondre les rayons pour obtenir de la cire pure plutôt que de les stocker. Dans les climats tempérés, le gel tue la fausse teigne à tous les stades de son développement. Les rayons vides conservés à l'air libre ne seront pas attaqués par la fausse teigne. Si les rayons sont stockés dans un endroit protégé du gel, vous pouvez les protéger en les exposant à des émanations d'acide formique, d'acide acétique glacial ou de paradichlorobenzène dans un compartiment hermétiquement clos. Fourmis et termites. Les fourmis essaient de dérober la nourriture des abeilles ou de manger les abeilles elles-mêmes. Les termites détruisent souvent les éléments en bois du rucher. Ces insectes perturbent tellement les colonies que celles-ci finissent par fuir. En construisant un système pour surélever les ruches, vous empêcherez ces insectes d'atteindre les ruches et leurs supports. Assurez-vous qu'ils ne poussent pas d'herbe autour des ruches. Les fourmis pourraient s'en servir de pont pour grimper sur les pieds de soutènement jusqu'aux ruches. Un désherbage régulier est de rigueur, mais comme ce désherbage peut perturber les abeilles, des précautions s'imposent pour préparer le rucher. Une grande toiture au-dessus du rucher suffit généralement à prévenir l'invasion des herbes. Nous vous conseillons de fabriquer des supports en pierre ou en métal. Si vous utilisez une cuvette d'eau ou d'huile, couvrez-la et vérifiez régulièrement qu'elle est encore pleine. Sinon, remplissez-la à nouveau. Les collerettes graissées entourant les supports peuvent également être très efficaces. Il faut alors les graisser régulièrement pour qu'elles ne se dessèchent pas ou les remplacer complètement. Vous pouvez aussi placer un vieux tapis en caoutchouc ou du linoléum sous les ruches. La loque américaine. La cause de la loque américaine est la bactérie Bacillus larva. On peut diagnostiquer cette maladie quand les opercules des cellules de couvain sont enfoncés et perforés. Les spores des larves Bacillus peuvent apporter la maladie lorsqu'elles ont été ingérées par des larves d'abeilles. Seules les jeunes larves sont touchées. Les spores restent indéfiniment sur le matériel apicole. La maladie se propage de colonie en colonie par le biais des abeilles vagabondes et pillardes, par le biais des pratiques apicoles et par le matériel contaminé. Traitement en cas de maladie. Lorsqu'on remarque qu'une colonie est atteinte de la loque américaine, il convient de l'isoler immédiatement des autres colonies. Les cadres infectés peuvent être brûlés pour éviter que les abeilles pillardes ne transportent les spores vers d'autres colonies. Renforcez ensuite la colonie en utilisant des cadres de couvain operculés sains. Mélangez de la poudre de terramycine avec du sucre en poudre et saupoudrez-en les extrémités des barrettes supérieures. N'appliquez pas cette poudre sur les rayons de couvain eux-mêmes car cela pourrait tuer le couvain ouvert. Les colonies fortes peuvent survivre à une infection de loque américaine, mais quand une colonie est très fortement infectée, il ne sert à rien de la soigner. Tous les cadres doivent être brûlés et la ruche ainsi que les outils utilisés doivent être lavés à l'eau savonneuse et séchés au soleil. La ruche devra ensuite être légèrement brûlée. Traitement préventif si vous ne constatez pas de loque américaine dans le rucher. Mieux vaut bien entendu ne pas utiliser de traitement préventif. Une bonne précaution consiste à remplacer régulièrement les vieux rayons noircis par de nouveaux. Si vous suspectez la présence de la loque américaine, mélangez de la téramycine au sirop sucré destiné au nourrissement printanier. Cependant, la téramycine n'étant pas très stable dans le sirop, elle peut contaminer la future récolte de miel. Il convient donc de retirer tout le miel emmagasiné au-dessus du nid à couvain ou de ne pas le récolter. En effet, si des traces d'antibiotiques sont découvertes dans le miel exporté, toutes les exportations de miel provenant du même pays seront mises au ban. Arrêtez de nourrir avec la téramycine au moins un mois avant le début de la miellée. D'autres maladies du couvain comme la loque européenne et le virus du couvain saxiforme sont moins dangereuses et contagieuses pour la colonie. La loque européenne se traite de la même façon que la loque américaine. Le virus du couvain saxiforme est un virus dont l'Apis mellifera se rend facilement maître. Cependant, chez l'Apis serrana, il peut prendre des formes épidémiques à cause du matériel génétique de l'espèce. Dans ce cas, l'élevage des abeilles ne peut se poursuivre qu'avec des reines de famille ne présentant pas de signes de la maladie. Le couvain calcifié, cette maladie est facilement identifiable. On trouve des larves desséchées dans les cellules du nid à couvain, devant l'entrée de la ruche ou sur le plancher. Cette maladie est causée par le champignon Ascosphaera api et sévit principalement au printemps. Les colonies fortes survivent facilement à la maladie. Le champignon se développe bien en milieu humide et profite de la faiblesse d'une colonie. L'humidité provient des pluies intenses au printemps. De l'humidité à l'intérieur des ruches. Des ruches placées dans un lieu humide. Des trous de vol étroits. Les colonies sont faibles parce que le rapport entre le couvain et les abeilles adultes est déséquilibré. La reine est vieille. D'autres maladies ont affaibli la colonie. Traitement préventif, veillez à avoir une bonne ventilation et un trou de vol large. Veillez à garder l'intérieur des ruches secs. Disposez les ruches à au moins 50 cm au-dessus du sol humide. Ne travaillez qu'avec des colonies fortes. Renforcez les colonies faibles ou des parties de colonies faibles avec d'autres colonies. Renouvelez régulièrement les vieux rayons. Pour les ruchers sédentaires où les colonies séjournent tout au long de l'année, bêchez la terre devant les ruches et enrichissez-la chaque année avec du calcaire. Traitement en cas de maladie, il n'existe pas d'agent chimique pour stopper la maladie du couvain calcifié. Il arrive que les apiculteurs recourent de façon préventive aux antibiotiques. Or les antibiotiques ne touchent que les bactéries et pas les champignons. Si la maladie est grave et ne peut être guérie en renforçant la colonie avant une bonne miellée, le meilleur traitement est de brûler les abeilles et les rayons, de désinfecter les ruches et de les faire sécher au soleil. Si les colonies sont régulièrement et gravement affectées par cette maladie, il se peut que cela soit dû au matériel génétique des abeilles. Redonnez alors aux colonies des reines d'une autre colonie non atteinte par la maladie. L'anosémose, cette maladie est due à un protozoaire, Nosema api, et ne touche vraiment que l'Apis mellifera. Elle atteint les intestins des abeilles adultes qui sont infectées lorsqu'elles avalent des spores du protozoaire. Les spores germent rapidement et le stade végétatif pénètre dans les cellules épithéliales des parois des intestins où de nouvelles spores se forment. On reconnaît la maladie aux traces de diarrhée laissées par la colonie. Il est fort probable que les apiculteurs ne la remarquent pas à un stade précoce car les nuages de pollen masquent les signes apparents de la maladie. Le temps de vie des abeilles infectées en est considérablement réduit. Les abeilles nourricières infectées sont moins en état de nourrir le couvain et les reines infectées moins en état de pondre des œufs. Le lent développement des colonies au printemps ainsi que le manque de reines et leur remplacement régulier sont souvent les symptômes révélateurs de l'anosémose. L'infection est au plus fort à l'automne quand il y a peu de couvain et à la fin de l'hiver ou au début du printemps, après une longue période de confinement. Les colonies infectées ne peuvent fournir une bonne récolte de miel à l'apiculteur. Traitement préventif, choisissez un endroit bien aéré pour le rucher mais protégé des vents dominants. Procurez-vous des abeilles hivernales vivant suffisamment longtemps et une jeune reine vigoureuse. Procurez aux abeilles du pollen en abondance et des magasins de nourriture. Renouvelez régulièrement les vieux rayons. Nettoyez régulièrement le matériel et les rayons vides par fumigation d'acide acétique. Entassez les rayons et le matériel dans les hausses et déposez dans chaque hausse un linge absorbant imprégné de 50 ml d'acide acétique glacial. Fermez bien les hausses entassées pour éviter que les vapeurs ne s'échappent à l'extérieur et ne touchez plus à l'ensemble pendant une semaine. Frottez le plancher avec de l'eau chaude additionnée de soude caustique. Traitement en cas de maladie, quand les colonies sont atteintes par l'anosémose, il faut absolument éviter de contaminer les autres colonies. Le transfert de la colonie vers des installations décontaminées ne sert qu'à contaminer plus d'installations. Essayez tout d'abord de calmer la maladie avant de transférer la colonie dans une ruche décontaminée. transférez la colonie sans ses provisions sur un équipement décontaminé. Nourrissez les abeilles avec un sirop de sucre, 2 pour 1, contenant une dose de 30 mg par litre de la substance active fumagiline. Nourrissez les abeilles avec du pollen désinfecté, de la farine de soja ou d'autres substituts du pollen. Faites fondre les rayons infectés et désinfectez l'équipement ayant abrité les abeilles malades. Chapitre 8. Économie apicole. L'économie apicole occupe une place importante dans le montage des projets en général et surtout le projet de type commercial en particulier. Elle permet à l'apiculteur de se faire une idée des prévisions et de chercher à jouer sur les facteurs biologiques et économiques qui peuvent influencer la réussite d'un tel projet. L'une des priorités pour le montage d'un projet en apiculture est de disposer d'informations sur le marché et les prix. Il faut tenir compte de deux facteurs qui sont de deux ordres. Les charges d'investissement. Elles sont composées d'infrastructures, matériel d'exploitation. Les charges de fonctionnement. Les coûts qui les constituent sont soit fixes, soit variables. Charges fixes, salaire manœuvre permanent, frais financiers, entretien, etc. Charges variables, salaire manœuvre, frais de gestion, frais de nourrissement, etc. Études économiques. L'étude économique consiste à la définition du financement, au calcul des coûts d'amortissement des investissements, évaluer la production pour établir un compte d'exploitation. Le financement peut être réparti en prêts bancaires et ou apport du promoteur. En matière de prêts bancaires, il faut définir la durée de remboursement et le taux d'intérêt. L'amortissement, ce sont les coûts de dépréciation des investissements. Il est calculé en fonction de la durée de vie de l'investissement. Exemple. Coût de fabrication de la ruche 3000 francs CFA. Durée de vie de la ruche 5 ans. Amortissement 6 cents francs CFA. La production. Toute source de recettes de l'activité fera l'objet d'évaluation pour définir la recette totale. Le compte d'exploitation. C'est la balance des charges et des produits. Il indique le revenu réalisé à côté des dépenses pour l'obtenir. Il permet d'apprécier la qualité de la gestion de l'affaire. À partir du compte d'exploitation, on procède au calcul des marges bénéficiaires. Il s'agit du bénéfice que l'exploitant a tiré de sa gestion. Exemple de montage d'un projet apicole. Les investissements, mise en place du rucher, 20 000 francs CFA. Équipement, pied de ruche 6 000 francs CFA, enfumoir 25 000 francs CFA, construction ou fabrication des ruches 30 000 francs CFA. Matériel d'exploitation. Saturateur 10 000 francs CFA. Lève-cadre 2 000 francs CFA. Combinaison 25 000 francs CFA. Extracteur 15 000 francs CFA. Presse à miel 10 000 francs CFA. Bascule 5 000 francs CFA. Sérificateur 8 000 francs CFA. Fiche de roulement pour un cycle annuel. Salaire contrôleur 20 000 francs CFA. Achat de nourrissement 10 000 francs CFA. Main-d'œuvre occasionnelle 10 000 francs CFA. Frais de gestion 10%. Études économiques. Financement du projet. Montant investissement plus fonds de roulement. Taux d'intérêt 10% pour les cas de prêts bancaires. Amortissement. Ruche coût divisé par durée de vie. Matériel d'exploitation coût divisé par durée de vie. L'amortissement peut être annuel, semestriel ou trimestriel. Évaluation de la production. Production totale. Nombre total de litres de miel obtenus dans les ruches. Exemple. 15 litres production moyenne par ruche multipliée par 40 nombre de ruches égale 600 litres. Valeur de la production. Prix fixé par litre multiplié par quantité de miel obtenu au total. Exemple. 2000 francs CFA multiplié par 6 cents égale 1 200 000 francs CFA. Compte d'exploitation pour un cycle. Charges. Équipement. Nourrissement. Salaire contrôleur. Achat de nourrissement. Main d'œuvre occasionnelle. Frais de gestion. Produits. Vente de miel. Total charges, total produits, amortisement, total, marge bénéficiaire brute, produit moins charge, marge bénéficiaire nette, produit moins charge plus amortissement.